Dans les pas des géantes. Elles ont marqué l'histoire des sciences, parfois sans qu'on le sache, souvent sans que l'on s'en souvienne. Dans les pas des géantes dresse chaque quatrième mardi du mois sur Radio B le portrait de ces femmes de science remarquables et pourtant méconnues. Laissez-vous inspirer avec Altec, le centre de culture scientifique de l'Ain. La médecine est aujourd'hui l'un des domaines les plus féminisés de la science. La médecine générale approcherait même la parité avec 46% de femmes parmi les médecins généralistes des pays de l'OCDE, selon un relevé qui date de 2015. Et pourtant, il suffit de creuser un petit peu dans l'histoire de la médecine pour découvrir à quel point il n'en a pas toujours été ainsi. Si les femmes ont toujours été en première ligne pour soigner, réparer ou encore aider à donner la vie, il aura fallu des siècles de lutte pour qu'elles puissent accéder aux études de médecine et être reconnues au sein de la profession, sans avoir à craindre, bien sûr, d'y perdre parfois la vie à l'image des sorcières du Moyen-Âge. Guérisseuses, sages-femmes, infirmières ou doctoresses, on parle aujourd'hui du rôle des femmes dans l'histoire de la médecine et pour cela, j'accueille ma collègue Delphine Nall, médiatrice scientifique à Altec. Bonjour Delphine.
Bonjour Camille.
Alors on le disait en introduction, les sciences médicales sont aujourd'hui l'un des domaines les plus ouverts aux femmes avec une quasi-parité, notamment chez les médecins généralistes. Est-ce que c'est le cas dans tous les domaines de la médecine ?
Non, la parité n'est pas encore partout. C'est le cas pour la médecine générale, en effet, avec même une féminisation grandissante, puisque 60% des nouveaux inscrits à l'ordre des médecins français sont des femmes. Il en est de même au niveau de l'hôpital, où les femmes représentent la moitié, voire un peu plus, des médecins, sans compter les 90% de femmes dans les postes d'aide-soignantes et d'infirmières. Il y a également certaines spécialités où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. La pédiatrie et la gynécologie médicale, sans grande surprise, mais aussi gynécologie médicale, endocrinologie, dermatologie, médecine du travail, où les femmes représentent au moins 2/3 des spécialistes.
À l'inverse, il y a des spécialités où les femmes sont encore peu représentées. J'en ai une facilement en tête, la chirurgie, qui est réputée pour être encore un environnement très masculin.
En effet, globalement, les femmes y sont encore minoritaires, même si les choses changent petit à petit. En 2015, on comptait environ 29% des femmes chirurgiens, toutes spécialités confondues. Ce qui est une avancée dans une discipline qui est encore, hier, quasi exclusivement masculine. Par contre, certaines spécialités de la chirurgie sont encore largement dominées par les hommes. En chirurgie thoracique et cardiothoracique, les femmes représentent moins de 10% des médecins. Encore pire, en chirurgie orthopédique et traumatologie, où elles sont moins de 5% des médecins.
Oui, alors il y a encore de fortes disparités aujourd'hui suivant les spécialités. Pourtant, Delphine, on le disait en introduction, les femmes ont toujours été en première ligne dans cette activité de soins, dans cette médecine, depuis la guérisseuse du village jusqu'à l'infirmière de front. En revanche, accéder au statut de médecin a toujours été plus difficile pour les femmes.
Oui et non. C'est là où l'histoire de la médecine est intéressante à étudier, parce que l'on se rend compte qu'il y a des périodes historiques où certaines femmes étaient reconnues, parfois fortement respectées, à ce titre de médecin. Et d'autres périodes où la clandestinité était la seule solution pour elles si elles voulaient continuer à soigner.
Alors parlons un petit peu histoire. Est-ce que l'on sait quelle est la plus ancienne femme médecin reconnue ?
Alors oui, a priori, il s'agirait d'une égyptienne du nom de Pézéchet, qui a vécu au temps de la 4e dynastie de l'ancien empire d'Égypte, environ 2670 et 2450 avant notre ère. C'est grâce à une stèle retrouvée dans une tombe près des pyramides de Gizeh qu'on a eu connaissance de cette femme médecin qui portait le titre de superviseuse des docteurs. On sait en plus, grâce à l'importance de la tombe et de la stèle, qu'elle avait un rôle important dans la société de son époque et qu'elle dirigeait un corps professionnel médical composé de femmes médecins qui s'occupaient des femmes et de la cour de la famille de Pharaon. C'est la plus ancienne trace d'une femme médecin de l'histoire.
Il y a une autre femme médecin dans l'Antiquité qui mérite vraiment d'être connue, surtout que son histoire elle est digne d'une légende ou même d'un film hollywoodien. C'est Agnodis, une doctoresse athénienne, qui a dû se travestir pour pouvoir exercer.
Agnodis, c'est une femme d'Athènes qui a vécu autour de 350 avant Jésus-Christ. Et malheureusement pour elle, il y a à l'époque à Athènes, une vieille loi qui interdit aux femmes et aux esclaves d'étudier et d'exercer la médecine. Elle est bien destinée à exercer la médecine coûte que coûte et décide donc de se travestir pour pouvoir étudier puis exercer la médecine et notamment l'art des accouchements et le traitement des maladies des femmes. Elle se coupe les cheveux, porte une toge courte à la manière des hommes et arrive comme ça à intégrer les cours de médecine puis à exercer ensuite dans la cité en tant que médecin. Très vite, ses patientes vont être très nombreuses et cela va finir par attirer la jalousie de ses confrères masculins qui vont l'accuser, sans savoir qu'Agnodis est une femme, de profiter de sa position pour corrompre les jeunes femmes mariées.
Ouais, du coup, au moment de son procès, puisque c'est là où elle va terminer, elle est obligée de révéler qu'elle est en réalité une femme. Malheureusement pour elle, du coup, elle est condamnée en fait à la peine de mort pour avoir violé donc cette ancienne loi qui interdit la pratique de la médecine aux femmes.
Heureusement pour elle, ses patientes, qui étaient souvent les épouses de citoyens athéniens, vont manifester et se déclarer prêtes à mourir avec elle si jamais Agnodis est condamnée. Finalement, Agnodis sera graciée et autorisée à poursuivre l'exercice de la médecine. Et le conseil athénien finira même par abroger la loi qui interdisait aux femmes d'étudier et de pratiquer la médecine.
Vous écoutez Radio P. On continue d'explorer l'histoire de la médecine et le rôle que les femmes ont joué. Place maintenant au Moyen-Âge. Alors, est-ce que c'est une période qu'on pourrait qualifier de sombre pour les femmes soignantes ?
En tout cas, on peut dire que c'est une époque assez paradoxale dans l'histoire de la médecine. Déjà, contrairement à ce que l'on pourrait croire, il y a eu, à certains endroits, pour certaines femmes, un enseignement de la médecine qui leur était ouvert. On a notamment l'exemple de couvents en Allemagne qui permettaient à certaines femmes de recevoir une instruction scientifique, dont la médecine. L'histoire a surtout retenu le nom d'une abbesse allemande, Hildegarde de Bingen, qui est devenu l'un des médecins les plus renommés de son temps. Ses ouvrages ont été précurseurs, notamment dans la physiologie humaine, et elle avait aussi une grande connaissance de la pharmacopée et de l'utilisation des plantes pour élaborer des traitements. Certains de ses enseignements sont encore utilisés aujourd'hui en naturopathie.
Ouais, alors dans l'histoire de la médecine, on peut aussi mentionner la célèbre école de Salerne, qui était la première école de médecine d'Europe au Moyen-Âge. Donc ça se passe en Italie au 9e siècle. Et cette école, elle était aussi la première ouverte aux femmes.
En effet, elle était ouverte aux femmes issues de la noblesse italienne, que l'on appelait les dames de Salerne ou femmes de Salerne. Et cette école a formé plusieurs femmes médecins de grande renommée qui ont aussi bien exercé la médecine, mais qui ont aussi enseigné et écrit des ouvrages médicaux. La plus célèbre d'entre elles s'appelait Trotula di Salerno, qui est l'autrice d'un des plus grands ouvrages gynécologiques du Moyen-Âge, et qui a ensuite été traduit en plusieurs langues dans toute l'Europe. Il y a aussi d'autres femmes médecins célèbres qui seront issues de cette école de Salerne.
Ouais, donc contrairement à ce que l'on pourrait croire, hein, il y a eu des femmes médecins pendant le Moyen-Âge, tout comme dans l'Antiquité, en tout cas on l'a vu en Allemagne et en Italie. Delphine, en France, comment ça se passe pour les femmes qui souhaitent apprendre et exercer la médecine ?
En France aussi, nous avons eu des femmes médecins de grande renommée. On peut citer par exemple Magistra Herzstrand, une femme médecin qui a accompagné Louis IX pendant la 7e croisade en 1249 et qui a soigné non seulement le roi, mais aussi la reine. Mais les choses vont commencer à changer quand la médecine va se professionnaliser avec la mise en place du doctorat des médecins dans les universités. L'université de Paris, notamment, va publier un décret vers la fin du XIIIe siècle qui interdit l'exercice de la médecine à ceux qui ne disposent pas de ce doctorat. Et comme l'université française n'était réservée qu'aux hommes, ça va de facto exclure les femmes de l'enseignement puis de la pratique de la médecine.
Ouais, on est alors au XIIIe siècle, hein, et après les femmes médecins de l'Antiquité, puis du début du Moyen-Âge, on entre dans une longue période où les femmes seront exclues de la pratique officielle de la médecine.
Oui, une interdiction qui va durer longtemps, jusqu'au XIXe siècle, soit plus de 400 ans d'interdiction. Et les rares femmes qui tentent de pratiquer la médecine sont souvent arrêtées et traînées en procès quand elles ne subissent pas des traitements plus expéditifs. Au XIVe siècle, on a la trace notamment du procès d'une femme médecin d'origine italienne et qui exerçait à Paris, Jacqueline Félicie de Almania. Lors de sa plaidoirie, elle va essayer de défendre la présence des femmes médecins notamment pour pouvoir examiner les autres femmes et leur fournir des soins appropriés.
Oui, parce que c'est ça aussi le problème avec le manque de femmes médecins, c'est tout simplement que les femmes en général ne peuvent pas bénéficier d'une bonne prise en charge de leur santé.
En effet, Camille, il faut s'imaginer que ce que l'on appelle la bienséance est en vigueur dans les rapports entre hommes et femmes et que les hommes n'examinaient que très peu les femmes. Elles devaient souvent se contenter de décrire oralement leurs symptômes sans auscultation.
Et donc Jacqueline Félicie, elle défend la présence de femmes médecins pour garantir cette meilleure prise en charge de leur santé. Est-ce que ça lui suffira pour continuer d'exercer ?
Malheureusement non. La Cour estima qu'un homme instruit dans l'art de la médecine était mieux capable de soigner les malades que n'importe quelle femme. Et du coup, elle interdira à Jacqueline Félicie de pratiquer sous peine d'amende d'excommunication en cas de récidive.
Alors, vous le disiez juste avant, donc c'est l'Université de Paris finalement qui enterre, hein, qui assoit cette exclusion des femmes dans la médecine. La pratique de la médecine en France va être globalement interdite aux femmes jusqu'au 19e siècle. Et pourtant, c'est aussi à Paris que les premières facultés de médecine vont s'ouvrir, puisque voilà, elles vont s'ouvrir aux femmes donc à partir du 19e siècle.
En effet, une ouverture timide des études de médecine aux femmes, mais qui va inciter plusieurs étudiantes françaises comme étrangères à tenter l'inscription en France ou en Suisse, puisque la faculté de Zurich, notamment, va aussi ouvrir ses cours aux femmes à la même époque. En 1868, quatre femmes entrent à la faculté de médecine de Paris. Catherine Goncharoff, une Russe, Marie Corina Putnam, une Américaine, Elisabeth Garrett, une Anglaise, et Madeleine Bray, qui deviendra la première femme médecin française. Cette inscription à la faculté de médecine, elle n'arrivera pas comme par magie pour ces femmes, en particulier pour Madeleine Bray, car elle doit faire face à de fortes réticences, notamment de la part des professeurs de la faculté. Au final, pour Madeleine, c'est grâce au soutien de l'impératrice Eugénie, du ministre de l'Instruction publique et du doyen de la faculté de médecine que Madeleine Bray obtiendra son inscription.
Au XIXe siècle en particulier, hein, il faut se rappeler aussi que les stéréotypes de genre sont très présents. Hein, on l'a vu dans la précédente chronique avec l'héritage de l'époque victorienne qui instaure vraiment de gros stéréotypes de genre entre les hommes et les femmes. Du coup, on imagine bien que le plus dur n'est pas encore fait pour ces premières étudiantes en médecine.
En effet, les quelques femmes qui arrivent à intégrer les facultés de médecine doivent faire face à la désapprobation de nombreux de leurs professeurs. De nombreux clichés sur les femmes médecins alimentent l'opposition de certains à l'ouverture des études de médecine aux femmes. Une force physique plus faible qui les empêcherait de soulever la malade, leur diminution physique au moment de leur menstruation, leur sensibilité naturelle qui les dégoûterait de la vue du sang, des corps découpés ou de la saleté. Et plus largement, les hommes redoutent une sorte d'orgueil féminin qu'ils jugent dangereux car ce sont des femmes qui finalement refusent de rester de simples rôles secondaires en devenant plutôt infirmières ou sages-femmes.
Et pourtant la médecine et en particulier la recherche médicale, là on regarde vraiment du point de vue d'aujourd'hui, elle a besoin des femmes, en particulier pour mieux prendre en compte les particularités de leur santé. On sait par exemple que les symptômes de l'infarctus ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes et qu'ils sont même plus discrets chez les femmes. Pourtant, c'est avant tout les symptômes masculins qu'on apprend à reconnaître. Et c'est aussi pour cette raison que la majorité des décès liés à l'infarctus du myocarde concernent aujourd'hui des femmes.
On sait surtout aujourd'hui que les chercheurs, notamment sur l'impact des médicaments, sont principalement basés sur les modèles masculins qui ne tiennent pas compte, par exemple, du système hormonal des femmes et des interactions possibles. On a même l'exemple de plusieurs tests sur des maladies gynécologiques effectués sur des sujets masculins.
C'est aberrant. Alors comment on explique cette exclusion des femmes dans les essais cliniques ?
Ce n'est pas par volonté malveillante à l'égard des femmes. C'est plus par facilité. Comme les hommes n'ont pas de cycle menstruel, leurs hormones ne varient pas au cours du temps. Ce sont donc des modèles plus homogènes à étudier, avec des résultats plus faciles à analyser ou à interpréter. Mais heureusement, la recherche médicale évolue de ce point de vue-là, Depuis 2001, la législation européenne impose notamment de réaliser tous les tests cliniques sur les deux sexes.
2021, hein, ça fait seulement 20 ans. Alors pour conclure, et comme on l'a vu en début d'émission, hein, il faut relever encore une fois que la féminisation de la médecine est en marche, hein, notamment avec l'arrivée des nouvelles générations de médecins généralistes, y compris dans la recherche médicale, où elle représente presque 40% des chercheurs. Merci Delphine de m'avoir accompagnée sur cette chronique.
Merci Camille.
Quant à nous, on se retrouve le 27 avril pour la prochaine chronique dans les pas des géantes. On parlera cette fois-ci de primatologie, une discipline scientifique dans laquelle les femmes ont joué un rôle primordial. À bientôt sur les ondes de Radio B. Retrouvez d'autres portraits de femmes scientifiques inspirantes et toutes les autres chroniques d'Altech sur le site radio-b.fr. À bientôt !